Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, bonjour à tous, ce que je n'aurais pas salué. Alors, on va faire la lecture de deux versets qui vont nous situer dans notre méditation ce matin. La première va vous surprendre par sa longueur. Alors prenez courage, vous allez supporter. Oui, oui, vous avez l'habitude de lire la Bible, quand même. Alors, la première lecture est celle-ci. Livre de la Genèse. D'accord. Verset 3. Livre de la Genèse, je rappelle, c'est le premier livre de la Bible. Chapitre 1er. Ah oui. Pardonnez mes distractions. Ou mes oublis, plutôt. Livre de la Genèse, chapitre 1er, verset 3. Attendez-vous à la longueur de la lecture. Dieu dit. C'est tout. Ça vous étonne? Alors maintenant, dans la semaine, dans les mois qui viennent, et dans les années qui vous restent, eh bien, si vous voulez savoir ce que Dieu a dit, lisez la Bible. D'accord? Dieu dit. Et on appelle ce qu'il dit la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Vous n'allez pas contester ma doctrine, quand même. Alors, voilà la première lecture. La deuxième... Dans Luc, chapitre 11, verset 28. Luc, chapitre 11, verset 28. Verset 27, si vous voulez. Ça complétera, c'est un petit paragraphe. Tandis que Jésus parlait, souvenez, Dieu dit, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et le verset 28 qui nous servira, Jésus lui répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. On va avancer comme ça, hein, petit à petit. On va voir. J'aimerais intituler notre message ce matin, le livrer à votre réflexion, inépuisable, hein, je tiens quand même à le dire. Hein. Ode à la parole de Dieu. Honneur suprême à la parole de Dieu. Et j'aimerais justement y adjoindre, en comparaison imaginaire, eh bien, que la parole de Dieu, c'est le jardin de Dieu. Je ne sais pas si vous possédez un jardin, je ne sais pas si vous avez une maison avec un jardin, il y en a de toutes sortes, des jardins potagers, des grands jardins chez les agriculteurs pour produire naturellement la nourriture pour les hommes, il y a les jardins d'ornementation, les jardins d'agrément, avec différents styles, hein, naturellement, style anglais, style à la française, etc., etc. Mais je voudrais justement dire quelque chose, parce que nous allons évoluer dans le jardin de Dieu. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que vous connaissez déjà, mais que nous allons cultiver, que nous allons explorer, parce que vous savez qu'une des choses, et nous le dirons tout à l'heure, quand l'homme a été créé, eh bien, la première chose qu'il a fait, c'est un jardin pour que l'homme, eh bien, le cultive. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, on va passer par le détail après. Jardin de Dieu, je l'appellerai le jardin des merveilles. Le jardin des délices. À l'origine, quand il a été créé, eh bien, c'est comme cela que nous le découvrons. Aucune iniquité, pas de péché, tout est pur. C'est l'intégrité complète et totale, absolue. On ne connaît pas autre chose que Dieu, ce qu'il dit, ce qu'il a dit, ce qu'il a créé par sa parole. Alors, Dieu, pour la première fois, parle à l'homme dans un jardin. Chapitre 2, on verra le 3 plus tard. Et nous pouvons dire que ça, c'est le printemps. Ouais, le printemps, c'est beau. Là, en ce moment, on est en train de chercher, hein. Mais ça va venir, inéluctablement, ça va venir. Et on peut s'émerveiller de voir la vie à travers le printemps. Parce que il y a là toute une explosion, un jaillissement de la vie. Et tout est beau. Les arbres commencent à avoir des feuilles. Des feuilles, eh bien, il y a ensuite, eh bien, là, des fleurs. Les fleurs vont, au fil des saisons, eh bien, vont produire des choses merveilleuses, des choses goûtées, des choses délicieuses, absolument. Dans la Bible, il y a aussi le jardin des amours. Quand on lit ce merveilux livre, pour les poètes, hein, mais même sans ça, le livre des cantiques, « Je suis descendu dans mon jardin et j'ai vu Sulamite ». Ça, c'est quelque chose, le jardin des amours, qui va finalement eh bien, trouver toute sa place dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jésus. Par amour, il va venir. Par amour, il va partir. Il va mourir. Et puis, il y a le jardin, en revenant vers le début de la Bible, tout simplement de la séparation. C'est le jardin en hiver. Parce que vous savez que moi, j'ai des hectares de jardin chez moi. Et je me demande comment je peux faire pour le cultiver. Alors pour l'instant, j'y touche pas parce que c'est désespérant. Il y a du vent, il y a de la pluie, il y a de la neige. Enfin bon, on ne va pas s'étendre là-dessus. Le jardin de la séparation, c'est chapitre 3 du livre de la Genèse. Ça, c'est quelque chose. C'est plus la vie, c'est la mort. C'est tout ce qui va, avec le temps, eh bien, mourir à un moment ou à un autre. Un moment ou un autre. Mur, jardin de la séparation. Il y a un autre épisode, je le cite au passage, bien qu'il soit quand même important pour nous en tant que chrétiens, en tant qu'humains, c'est le jardin de la convoitise. Parce que quand Lot décide de quitter finalement eh bien, son tuteur, son père spirituel, nous pourrions dire Abraham, il va monter sur la colline et puis il va voir en bas, du côté de Sodome et Gomorre, il va voir, eh bien là, un terrain comme le jardin d'Éden, une vallée comme le jardin d'Éden. Et là, il va dire, faut pas que je reste en haut, hein. Il n'y a plus rien là-bas, c'est l'hiver. Mais je vais descendre en bas. Et là, vous savez, vous connaissez un peu, eh bien, la conséquence, mais on connaît aussi la conséquence de la convoitise, nous, lorsque nous regardons en bas et que nous oublions de regarder en haut. La convoitise. Jardin de Lot. La véritable tromperie, l'illusion que nous pouvons nous faire sur la véritable vie. Et puis, plus tard, on tournera les pages de notre Bible et on arrivera dans le Nouveau Testament. Il y a le jardin de Gethsémané. C'est le jardin de la trahison. Vous connaissez les protagonistes, hein ? Jésus, puis il y a Judas. Et puis, il y a le monde qui est là. Et qui va véritablement, eh bien, là, avoir une attitude qui est la plus odieuse qui soit, la trahison, au jardin de Gethsémané. Il y a le jardin du sépulcre. Contrairement à ce que nous pourrions penser, c'est le jardin de la mort. Eh bien, moi, je dirais que Là, le jardin du sépulcre, c'est véritablement la traduction de la vie qui éclate, c'est la résurrection. Il est vide. Le tombeau est vide. Jardin du sépulcre, la résurrection de Jésus-Christ. Et puis il y en a un dernier dans lequel nous irons, dans lequel nous régnerons avec Jésus, c'est le jardin céleste, c'est la nouvelle Jérusalem, où il nous est donné, il nous est parlé, qu'il y aura, eh bien là, un fleuve, des fleuves, comme dans le jardin d'Éden, parce que pour que ça pousse, il faut de l'eau, hein. Ça on est tout à fait d'accord, pas trop, mais de l'eau quand même. Et puis il y aura un arbre, il y aura des arbres, il y aura l'arbre de la vie, et il y aura des capacités extraordinaires pour soigner les nations. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est beaucoup plus complexe qu'on pourrait le penser, mais on ne va pas s'égarer dans une spéculation théologique. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous rentrerons dans un autre jardin. Le jardin, celui du départ, une véritable faillite, et puis le jardin qui sera de l'autre côté, où là nous vivrons éternellement avec Dieu, avec Jésus-Christ. Alors, j'aimerais aller un peu plus loin, on reparlera du jardin tout à l'heure. Cette femme qui pose la question à Jésus, heureux, celle qui enfante. Heureux, répondra Jésus, d'accord, mais ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Ça, c'est important. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est que, pour certains, vous avez des années et des années d'appartenance à votre Père Céleste, parce que vous avez entendu la parole de Dieu qui a fait naître la foi en vous, vous vous êtes repenti, vous avez demandé pardon et Dieu vous a pardonné, vous avez suivi quelqu'un qui n'est pas un système religieux d'une manière ou d'une autre, vous avez quelqu'un qui est, eh bien, le Verbe incarné, celui qui a dit et qui est incarné sur la terre, et nous voyons que, eh bien, il nous a fait naître de nouveau, il nous a baptisés de son esprit, nous ne sommes plus dans les ténèbres, et il dira ces paroles toutes simples, pour ceux qui sont en recherche, « Je suis la lumière. » Laissez-vous éclairer. « Je suis le chemin, celui qui mène, celui dans lequel vous... » Ce n'est pas une voie sans issue, mais c'est le chemin, suivez-le. Et puis, il y a la vie, la véritable vie, pas cet exarste de vie que nous connaissons sur la terre, qui n'est faite de toutes les choses qui sont effrayantes que nous vivons aujourd'hui, mais une vie qui est la marquée du sceau de Dieu et qui est le produit de la parole qui est venue dans nos vies, qui s'est installée et qui nous dit, eh bien voilà, ça c'est la vie, ça c'est le chemin, ça c'est la vérité. Alors il s'agit d'une parole royale, comme tous les décrets que les rois depuis, ou les empereurs, hein, où tous les présidents ont pu faire, et il ne se passe pas une journée où il n'y a pas finalement eh bien, des paroles présidentielles. Là, c'est une parole royale. Un roi que l'on a rejeté pour les Juifs, et peut-être pour une grande partie du monde dans lequel nous vivons. Jésus est le roi des rois, nous dit la parole de Dieu. Dieu dit, je vous enverrai un autre prophète. Je vous enverrai un prophète. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur, nous dit Dieu, des seigneurs. Et son royaume est appelé naturellement de la nature même. S'il est roi, eh bien, son royaume est appelé royaume de Dieu et royaume des cieux. On est en train de faire un pulse là, hein, actuellement. Et Jésus va, dans les paraboles, les magnifiques paraboles que nous avons souvent ouvertes pour les méditer, il comparera son royaume de Dieu, qui est celui sur terre, et le royaume des cieux, celui qui est à venir. Il faut faire la petite nuance. Hein. Il est comme, dira Jésus, il est comparable à une perle. Vous êtes venus avec vos perles, mesdames, ce matin? Non. Non, je suis déçu pour vous, hein, parce que bon... Alors... Il est comparable à un trésor qui est caché et qu'il faut trouver, qu'il faut découvrir. Mais où le découvrir? Là, nous avons une fameuse parabole aussi. Parce qu'il nous assure la richesse pour notre vie intérieure. Ouais. Nous ne sommes pas des... Comment pourrait-on dire des grippe-sous. Nous ne sommes pas des gens qui cherchons à être riches sur cette terre, mais il est question d'une richesse, il est question même d'une fortune pour qui cherche et trouve. Encore des paraboles. Dans ce royaume, on n'y parle qu'une seule langue, alors qu'il y a des centaines, des milliers de langues, de patois, de dialectes, de par le monde. Eh, on se souvient de Babel, hein ? Heureusement, parce que ça crée toute une corporation de professeurs de langue. Autrement, ben, on parlerait tous la même langue. Alors, on ne se comprend pas comme ça, mais il y a une langue qui nous rassemble. Elle est autour d'une personnalité éternelle, c'est Jésus, c'est Dieu, et elle s'inspire de sa parole. Ouais. Un chrétien, il ne va pas chercher ailleurs, bien que ce ne soit pas défendu de lire différentes bonnes littératures. Hein. Ce n'est pas ça ce que je veux dire. Donc, on parle une seule langue dans ce royaume des cieux, dans ce royaume de Dieu, et cela porte tout simplement un nom, l'Écriture, l'Évangile. Ouais. L'Écriture dans son ensemble, et puis l'Évangile de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Il nous est parlé aussi, dès l'approche que nous avons eue, Dieu dit, que c'est une parole qui est pure et sans défaut, nous n'avons aucun doute. Et depuis que Dieu a parlé, les hommes, ceux qui ne sont pas, qui ne connaissent pas Dieu, n'ont jamais cessé de critiquer, de brûler, de tuer, de détruire, de dénaturer, de déformer, de défigurer la parole de Dieu. C'est toutes les sectes, c'est toutes les religions, hein. C'est toutes ces mouvances, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Même le christianisme n'a pas fait défaut, hein. Il faut voir un peu ce que nous dit dans le Nouveau Testament l'apôtre Paul quand il parle des faux docteurs, des fausses doctrines, etc., etc. Donc, parole pure et sans défaut, qui, finalement, elle est vivante et elle est éternelle. Elle subsiste à jamais. Elle nous est présentée comme un feu, la parole de Dieu, qui brûle de sainteté, qui brûle pour détruire le mal. C'est une lampe que nous pouvons déposer à nos pieds, dans un monde de ténèbres et d'obscurité qui éclaire notre chemin. Elle nous éclaire, cette parole de Dieu. Elle est le miel qui finalement nourrit l'âme qui a faim. Elle est douce, elle est bonne, elle est miséricordieuse, elle est pleine de pardon, elle est pleine d'intention de secours, de délivrance pour celui qui souffre. L'âme qui a faim, que l'on appellera les compassions de Dieu, la consolation que nous donne la parole de Dieu. Un livre par excellence, c'est quand même le livre des psaumes. Hein. Quand je pleure, quand j'ai mal, quand je suis perdu, quand je cherche ma route, eh bien il y a là une parole de consolation. Quand je perds quelqu'un que j'aime, qui nous quitte, il y a là une parole de consolation. Elle est le miel. La parole, et je voudrais, dans cette présentation, j'en suis qu'à l'introduction. Mais on va aller plus loin. Elle est l'essence même, cette parole, de ce que nous pouvons, peut-être, ce qui nous vient sur nos lèvres, de l'amour. Parce que c'est que ça. C'est pas autre chose. Elle brûle la haine. Elle confond le menteur. Elle, finalement, dévoile le voleur, et puis tout ce que vous voudrez, hein, dans tout ce qui est immoral, dans tout ce qui est d'insanité. Alors, la parole est l'essence de l'amour qui répand autour d'elle la foi, la confiance, et qui nous dit la vérité. Ouais, elle nous dit la vérité. « Je vous ai envoyé le Consolateur, nous dit Jésus, dans Jean chapitre 16 ou 14, 16. Et il nous est dit que l'Écriture, eh bien, est l'Esprit de vérité qui nous conduira, qui nous conduit dans toute la vérité. C'est une grâce, et je voudrais quand même le souligner, parce que dans l'Ancien Testament, dans le Dieu dit, il y avait toute une partie qui a duré à peu près 2000 ans. C'est la loi de Moïse. C'est finalement la Torah des Juifs. C'est toute l'histoire d'Israël. Et nous voyons que Il y avait quelques soupçons de lumière parlant de foi et parlant de grâce, mais c'était avant tout la déclamation, la déclaration de la loi. Mais on n'est pas sauvé par la loi. La loi nous condamne, mais par contre elle nous offre cette petite fenêtre de lumière pour nous dire « mais c'est pas seulement ça ». Oui, c'est bien, vous. Mais là, vous êtes en train de vous méprendre parce que vous voulez être sauvé par le mérite, par l'effort que vous faites. Mais moi, viendra un temps où je vous enverrai celui qui va mourir pour vous, qui va prendre votre place, qui va être votre substitut et qui va mourir sur la croix de Golgotha. Et alors, à ce moment-là, ça ne sera que grâce par la foi, au moyen de la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvé, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Naturellement, c'est une grâce dans les cœurs qui assure le secret du vrai bonheur et de l'épanouissement. Moi, je veux croire de tout mon cœur que quand on est chrétien, on est heureux, même dans les moments difficiles. Le malheur est à l'extérieur, le bonheur est à l'intérieur dans notre cœur, n'est-ce pas? Ah, voilà, au moins, vous vous réveillez. Oui, non, mais c'est bien. C'est vrai que nous sommes peut-être, non pas plus que les autres, mais nous sommes comme les autres hommes sur cette terre, dans des souffrances, dans des soupirs, dans des cris, quand on voit ce qui se passe autour de nous, dans des monstruosités. Mais une chose, nous voyons que il y a quelque chose de formidable, c'est qu'il peut y avoir la tempête, tiens, comme hier, la tempête avec des vagues terribles à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a le repos dans notre cœur et dans notre âme. Et c'est Jésus qui l'occupe. Ça, c'est formidable. C'est extraordinaire. C'est le secret du vrai bonheur et le secret de l'épanouissement. C'est pour ça que nous traversons vents et marées, que nous traversons finalement des murailles, que nous traversons... C'est pas facile. Mais on apprend à travers ça. Parce qu'autrement, on serait stérile. Mais là, il y a du fruit derrière. Notre foi spirituelle grandit. Alors, je me retourne... Finalement, eh bien, à notre jardin. Parce que là, c'était une petite approche. La parole de Dieu est un jardin, écoutez bien, aux gerbes embaumées. Parfum. Il est question des parfums dans la Bible. Hein? Vous savez, Marie. Vous connaissez? Pas Marie, la mère de Jésus, mais Marie de Béthanie. Au parfum embaumé que Dieu a semé. Parce que c'est lui qui fait tout. Tout vient de lui. C'est un régal de regarder la création de Dieu à travers le monde végétal. Je ne parle que de lui. Hein? Un jardin qui évoque le charme, qui évoque le parfum et la beauté. Tous les hommes, dans les grands empires, dans les royaumes, ont construit de magnifiques jardins. Jardin de Versailles. Jardin, les jardins suspendus de Sémiramis à Babylone, et puis il y en a d'autres. Et c'est quelque chose, les hommes sont préoccupés par une maison individuelle et aussi par leur jardin. Oui, c'est bien, c'est terrible de vivre dans les cités, les grandes cités où nous sommes en immeuble. Il n'y a pas grand-chose là, mais bon, on va peut-être dans les jardins publics. Et c'est beau. Il y a des jardins que j'apprécie particulièrement. Et dans chaque village, la municipalité fait un petit jardin, avec une fontaine, souvent. Hein. Ouais. Alors, c'est intéressant, aux germes embaumés, il y a un parfum suave qui descend du ciel. Alors, si l'on fait une petite promenade au Jardin des Délices, nous allons voir comment ça s'est passé dès le début. Dès le début, c'est dans le livre de la Genèse, forcément. Il est dit ceci, que Dieu a créé l'homme, et Dieu planta un jardin en Éden, alors je passais, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Il y mit l'arbre de la vie au milieu du jardin, et puis le reste, vous connaissez le deuxième. Et il est précisé, un fleuve sortait d'Éden, parce que pour arroser le jardin, et là, il se divisait en quatre bras. Alors, je passe sur les fleuves, comme on retrouvera dans le livre de l'Apocalypse à la fin, hein, de toute façon. Hein. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Alors, la suite, vous la savez, et je ne veux pas la commenter parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, le jardin d'Éden, que l'on appelle le paradis terrestre. Paradis, c'est un mot qui vient du persan et qui nous montre finalement eh bien, toutes les beautés de cet endroit. Alors tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une parole royale, c'est la parole de l'amour. Tout ce que Dieu a fait en créant, il l'a fait dans l'amour. C'est Jacques qui nous le rappelle au chapitre 2. Alors, il est naturellement eh bien, important que nous puissions comprendre eh bien, tout cela, parce que c'est tellement fondamental de savoir que la parole de Dieu, c'est le jardin de Dieu qui l'a fait pour l'agrément des hommes, pour le bonheur des hommes, pour leur épanouissement naturellement. Et je voudrais souligner une chose, c'est qu'il y a la parole, mais il y a deux façons de l'interpréter. Il y a première façon qui était celle des Juifs d'Israël, qui était la loi. Mais vous savez que la loi donne la mort. Elle ne donne pas la vie. Les Juifs se sont mépris quand ils pensaient que c'était par obéissance qu'ils seraient sauvés. Comme aujourd'hui, les grandes religions dites chrétiennes, et même celles qui sont les plus en vue même dans notre pays, on pense qu'on est sauvé par ses mérites. On pense qu'on est sauvé par nos efforts. On pense être sauvé parce que nous le méritons, mais nous ne méritons rien. Et puis, il y a deuxième interprétation de ce que Dieu a dit. Et moi, je reviens au Nouveau Testament, quand il est question de la vie de l'Esprit et de la grâce. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons que nous réjouir d'être dans cette dispensation, finalement, du Nouveau Testament, de croire en Jésus-Christ et de savoir que finalement Dieu nous fait grâce, non pas parce que nous voulons faire la démonstration d'un devoir devant Dieu pour lui plaire, mais que nous n'avons rien à faire et que nous avons juste à croire, finalement, dans le sacrifice de Jésus qui a fait l'expiation, qui a pris notre place et qui nous donne aujourd'hui une pleine et entière vie, tout simplement, sans rien faire. Arrêtez de vous battre. Arrêtez de vous battre avec vous-même. C'est ça ce que je veux dire. Arrêtez de chercher toutes sortes de... faire des spéculations pour dire « Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour plaire à Dieu ?» Mais à partir du moment où vous confessez Jésus et que vous suivez la parole de Dieu dans l'Évangile, mais vous êtes déjà. Arrêtez de vous laisser accuser par le diable. Parce que lui, il est là. Hein. Je peux vous le dire que, comme dans le jardin d'Éden, hein, vous serez comme des dieux, vous serez ceci, vous serez comme cela, etc. Ça, c'est le grand mensonge qui revient toujours, hein. Et depuis toujours, finalement. Hein. Alors, quand on fait une promenade dans le jardin des délices, on s'aperçoit que ce que Dieu a fait, c'est quelque chose qui est délicieux. On va maintenant comparer, parce qu'on l'a souligné, on va maintenant comparer que, eh bien là, la parole est une mine. Une mine, vous savez ce que c'est qu'une mine, hein ? Il n'y en a pas trop par chez nous, mais dans le Nord, dans Lorraine, etc., etc., hein, c'est l'extraction de ce qu'il y a au cœur de la terre pour en faire des produits transformés, hein, là, des métaux, enfin la métallurgie, etc., etc. Voilà, tout ce que l'on peut imaginer. Donc, c'est une mine aux 1000 trésors, et je précise, à la découverte. Eh oui, parce que ceux qui descendent, il faut le faire. Hein. Quelquefois, ils sont à 2000, 3000 mètres, finalement, sous terre. Hein, ils voient le jour que la nuit, parce qu'ils sont toujours dans le noir, hein, et avec des salaires de misère. Mais enfin bon, ça c'est le mineur, hein, c'est des gens qui voilà, sont là pour faire... Ils vont à la découverte, et on trouve dans la terre, qui est la convoitise du monde, le monde non chrétien, le monde non converti à Jésus-Christ, des perles, des diamants sans nombre. Il y a un texte qui est formidable, c'est dans Job chapitre 28... Il est dit ceci, il y a pour l'argent une mine, c'est pas les banques, hein. Une mine de l'or, des pierres cachées contenant du saphir. J'ai prêché là-dessus un jour, avec un camp de jeunesse, on était dans l'Oisans, dans les Alpes, on était à 2500 mètres, et je m'en souviendrai toute ma vie, parce que là, c'est vraiment le monde minéral, hein. C'est pas sous la terre, mais c'est les montagnes. Et c'était en été, et... C'était quelque chose de fabuleux. Et ça, je m'en souviendrai, parce que ça m'a marqué. Hein. J'ai souvent prêché en salle ou comme ça, dans d'autres situations. Et ça, c'est formidable. Et j'avais trouvé ce texte pour montrer toute la richesse d'un monde qui semble stérile, des pierres, des rochers, et puis à des sommets extraordinaires, et qu'il y avait là des trésors. Ben, si les hommes cherchaient dans la parole de Dieu, finalement, creuser des mines... pour chercher eh bien, les perles et chercher les valeurs qui sont là, le saphir, l'émeraude, etc., etc., on ne peut que se réjouir parce que la parole de Dieu, c'est une richesse. Il faut bien se le mettre en tête. Ça, c'est quelque chose d'important. Ouais, des diamants sans nombre. Allons un peu plus loin. La Bible nous dit que la parole de Dieu est une voûte. C'est la voûte des cieux, là-haut, pas en bas. Elle est en bas pour instruire les hommes, pour faire dire tout ce que nous avons déjà dit, mais elle est la voûte des cieux. L'homme n'est pas, quand il naît sur la terre, il n'est pas appelé à regarder en bas, il n'est pas appelé à regarder seulement à l'horizon, à l'horizontale si vous voulez, mais il est appelé à regarder la voûte des cieux, parce que c'est pas vide là-bas, là-haut plutôt. Une voûte des cieux lumineuse et infinie, brillant de mille éclats dans la nuit de ce monde obscur. On appelle ça le ciel, un ciel de clarté sans égale. Ça, c'est notre espérance, mes frères et sœurs. Il y a des gens qui ne veulent plus vivre, préfèrent mourir. C'est terrible, on appelle ça le suicide. Mais je pense que le chrétien doit être aspiré à regarder en haut. Et quand nous regardons en haut, toute notre petite misère, tous nos petits problèmes disparaissent. Et c'est dans la Bible qu'on nous parle du ciel. Ouais. Qu'on nous parle finalement, eh bien, de cette clarté. Il n'y aura pas d'ombre. Il n'y aura pas de toutes sortes de choses là qui sont quelquefois, qui suscitent la peur. Non. Clarté sans égale. Et puis la parole de Dieu nous parle d'un chant. Elle nous parle de chant. Et le livre des psaumes, c'est bien ça. Hein. Le monde des instruments dans la Bible, c'est quelque chose. Pour ceux qui s'intéressent à la musique. Hein. Elle nous parle de voix, V-O-X. Elle est un chant puissant aux harmonies envoûtantes. Combien nous avons eu quelquefois un tressaillement surnaturel. Lorsque nous avons entendu un cantique pour la première fois ou que nous l'avons entendu plusieurs fois, et à chaque fois qu'il nous fait un bien immense. Eh oui. C'est bien, mon cher Damien. Tu fais du bien en chantant. Et vous vous faites du bien en chantant ensemble. Ouais. Il y a des cantiques qu'on n'oubliera jamais dans notre vie. Peut-être les premiers au moment de notre conversion. Mais il y a des cantiques que nous chantons ici encore. Hein. Et c'est pas, vous savez, je voudrais le dire au passage, parce que on le voit de plus en plus dans notre société moderne évangélique, je tiens à le dire, avec le marketing qui va avec, où quelquefois il faudrait, là, monter au plafond, il faut gesticuler, etc., etc. Mais moi, je voudrais vous dire ce matin, même une église, où quelquefois ça semble si calme, mais qu'est-ce qui nous permet de dire que c'est si calme, quand il peut y avoir finalement, eh bien, cette condition paisible à l'intérieur où les gens n'ouvrent peut-être pas la bouche, mais ils chantent des cantiques dans leur cœur, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ne jugeons pas, parce que là, on est en train de nous faire du forcing, en disant, ben voilà, l'Église, elle est morte, l'Église, elle est ceci et cela. Ben moi, je ne suis pas d'accord. Oui, je me fâche. Hein. Mais oui, parce que qui peut dire ? Alors, si vous voulez danser, si vous voulez faire, vous allez où vous voulez, hein, c'est pas que je mets les gens à la porte, hein, pas du tout, hein. Mais ne jugeons pas les autres qui quelquefois viennent après une semaine de labeur, une semaine de travail et qui ont besoin de se reposer. Mais là, ils ne se reposent pas. Eh bien, dans leur maison, ils se reposent en Dieu, dans la communauté des chrétiens. Ça va ? Oui. Bon, allez. C'est un chant puissant aux harmonies envoûtantes et ça nous fait du bien. Quelquefois, nous sommes venus en pleurs dans l'église parce que nous avions mal, parce que nous avons été déçus, nous avons été trompés, il y a toutes sortes de choses. Et là, un chant est venu. Eh bien, nous l'avons chanté toute la journée et toute la nuit parce que finalement, il était rentré là et c'est une parole de Dieu. Le chant, c'est une parole de Dieu aussi. La prédication, oui, mais le chant aussi. Hymne majestueux aux mille accents unissant la voix des hommes à la gloire de Dieu. Dieu dit, vous chanterez. Vous exprimerez à travers des mélodies. Eh bien, votre amour pour moi. La parole de Dieu est un arsenal. On en a un, là, un grand arsenal maritime, hein, les sous-marins de Saint-Nazaire. Et voilà, hein, vous savez à peu près ce que c'est. Hein. La parole de Dieu est un arsenal équipant pour la bataille contre le mal. C'est fait pour ça, hein. Pas pour déclarer la guerre, mais c'est pour se défendre, hein, entre autres. Et il nous est présenté comme une armure qui est à ma taille, bien coupée, le meilleur des tailleurs, offrant victoire par la foi. Elle est aussi l'épée qui vainc l'ennemi. Alors, simplement, moi je voudrais simplement vous dire que dans... Et là, c'est une parole qu'il faut rappeler. Quand il dit ceci, c'est Paul qui parle de l'arsenal de Dieu, l'arsenal pour les chrétiens. « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Alors là, nous sommes dans une autre dimension. Parce qu'il précise « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sens, la nature humaine, mais contre des dominations, contre des autorités, des princes de ce monde de ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà nos adversaires, je dirais plus, voilà nos ennemis. » C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est un aliment. Ouais. Alors, on a sur nos tables une multiplicité de choses. Hein. C'est bien pour nous. Hein. Quand on voit qu'il y a des gens qui, matin, midi et soir, mangent du riz, quand ils en mangent une fois par jour, en plus, quelquefois, ça fait à peine, à peine. Alors, c'est une manne dont nous avons la préfiguration dans le livre de la marche des Hébreux dans le désert, la manne qui rend fort, et quand je dis qui rend fort, je vais faire un jeu de mots, qui nous donne du réconfort, ouais. Qui ramène le courage et qui nous donne de l'espérance, un aliment. Vous savez, quelqu'un qui cesse de manger, il va perdre ses forces. Eh bien moi je dis que quelqu'un, et là je vais faire une petite nuance, qui cesse d'écouter la parole de Dieu, parce que c'est pas tant de la lire... D'accord. Parce que je voudrais quand même préciser une chose. Pendant 14 siècles, avant l'invention de Gutenberg qui a popularisé l'écriture sainte, eh bien, c'était des clercs qui faisaient ça, c'était des prêtres, c'était la religion, c'était les vitraux qui parlaient. Mais dans la Bible, vous remarquerez, je crois que j'ai repéré plus de 300 références dans la concordance où il est dit « Écoutez la parole de Dieu ». Et une trentaine, lisez la parole de Dieu. Non mais je travaille encore, hein, pour chercher ce que j'ai besoin pour nourrir finalement l'Église. Hein. Ouais, ouais. Et c'est vrai que, quelque part, c'est écouter. Écoutez-moi, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Hein. Et tout le monde ne savait pas lire hein, dans les siècles passés. Donc il y avait une forme d'ignorance. Mais les gens, ce qu'ils savaient, ils le savaient, ils le gardaient. Et s'ils avaient entendu dire que Jésus était sauveur du monde, eh bien ils y croyaient peut-être sur une phrase, sur si peu de choses. Mais aujourd'hui, nous avons une chance extraordinaire. C'est que nous pouvons la lire du début de la Genèse jusqu'à l'Oméga, c'est-à-dire le livre de l'Apocalypse. C'est formidable hein, ce que Dieu a fait. Hein, avec le concours des hommes. Alors, ça nous apporte tout ce dont nous avons besoin et pour nous conduire, nous diriger sûrement. Je vais bientôt terminer. La parole de Dieu est une flamme. Elle brûle. Dans les endroits secrets, d'autant plus, elle est plus vive. Ah oui, si vous mettez là une bougie ici, avec toutes les lumières qu'il y a, on ne verra pas forcément. Hein. Mais par contre, vous éteignez les lumières et vous mettez une bougie ici, on va voir toute la pièce, peut-être plus faiblement, mais néanmoins, on va la voir. Eh bien, la parole de Dieu, elle brille comme dans un endroit obscur. Et c'est le monde. Mais c'est peut-être aussi l'obscurité de nos cœurs. Ouais. À un moment donné, dans le livre où il est question de Samuel, il nous est dit que la lampe de l'Éternel était près de s'éteindre. Ouais. Mais Dieu avait suscité Samuel pour réveiller tout le monde et ramener la lumière. Et vous savez, quand à la fin de l'Ancien Testament, du côté de Malachie, il paraît que Eh bien, toute la foi des Israélites était près de mourir aussi. Et Dieu a envoyé quelqu'un qui a prévenu Jean-Baptiste pour annoncer la venue de celui qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Eh bien, le monde est encore éclairé 2000 ans après. Une flamme. Et quand on parle de feu, quand on parle de lampe, on parle du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de revenir à tous ces principes. Ce n'est pas de la théologie seulement, avec de la connaissance sur le sujet, mais c'est véritablement la vie à l'intérieur de nous-mêmes. Je ne suis pas seulement avec vous, le Saint-Esprit ne sera pas seulement avec vous, mais il sera en vous. Nous avons une lumière dans notre cœur. Et notre temple est le temple du Saint-Esprit. Alors, Esprit Saint, le langage sublime parlé au ciel, surnaturel, puissant, don miraculeux, les fruits que cela va produire à l'été, finalement du jardin, à l'automne également, et qui va faire les délices, notre délice pour le temps présent et pour le temps à venir. Ainsi est la parole de notre Dieu créateur et sauveur. Dieu dit, et il a parlé. Et ce matin, il vous rappelle qu'il a parlé, qu'il parle encore, à travers toutes sortes de besoins qui sont les vôtres. Et vous, vous les connaissez. Mais Dieu les connaît parce que vous lui avez dit. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis dimanche prochain ? Inspire ton serviteur. Inspire celui qui est la proposition, que soit pasteur ou frère ancien, peu importe. Peu importe, ne vous attachez pas aux hommes. Ça ne sert à rien, ça. Mais attachez-vous à Jésus. Ouais, c'est lui qui est véritablement le centre, parce qu'il est la parole vivante. Parce que comme nous l'avons dit, eh bien, il est l'essence même, en quelque sorte. Ouais, Seigneur, tu m'entoures de chants, d'allégresse et de délivrance. Continuons à bénir le Seigneur à travers nos chants. On les chante. Il y en a certains d'entre nous que nous sommes, nous les chantons depuis plus de 50 ans. Mais vous savez, moi j'apprécie les nouveaux chants, mais j'apprécie aussi les anciens, qui, à mon sens, étaient véritablement bien constitués, parce que j'aime bien la poésie. Mais aujourd'hui, c'est surtout répétitif. Mais il peut y avoir l'esprit hein, dans les deux sortes, quoi qu'il en soit. Hein. Ouais, Dieu nous fait la grâce. Et puis, nous pouvons peut-être terminer par cette belle parole, quand nous voyons les disciples d'Emmaüs, qui sont dans l'obscurité, dans le noir, parce qu'ils viennent d'apprendre que Jésus a été crucifié. Ils ne savent pas qu'il est encore ressuscité, ils ont des doutes, ils s'en vont là, dans le village d'Emmaüs, complètement les épaules sur eux, hein, complètement désespérés, en dépression. Et Jésus les rencontre, ils ne savent pas encore que c'est Jésus. Et là, ils vont se rentrer dans une auberge, et il va dire, ces hommes, les deux disciples d'Emmaüs, vont dire, mais notre cœur ne nous brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait des Écritures ? Et c'est comme ça que c'est écrit. Hein. Ouais, il y avait quelque chose. Ils ne savaient pas, ils ne reconnaissaient pas physiquement. C'était Jésus qui marchait en leur compagnie. Et là, peut-être pendant un certain temps, quelques quarts d'heure ou une demi-heure ou une heure pour atteindre la ville ou le village d'Emmaüs, et là, ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui les brassait, qui les brûlait à l'intérieur. Et ils le diront, mais notre cœur ne nous brûlait-il pas ? Mes frères et sœurs, que nous puissions prier toujours davantage pour que Dieu nous brûle de la parole de Dieu. Ouais, que Dieu nous brûle. Non pas avec des théories théologiques, de la loi, etc., 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 qui font beaucoup plus peur qu'elles nous rassurent, mais nous avons cet écrin, dans un écrin, cette perle qui est la parole de Dieu. Conclusion. Heureux ceux qui écoutent et qui garde la parole du Seigneur, parce qu'elle est un jardin des merveilles, un jardin des délices. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que, en effet, c'est avec crainte et tremblement que nous pouvons parler de choses si belles, si grandes. Les choses que tu nous dis ne sont pas terrifiantes pour ceux qui ont fait la paix avec toi. Pour ceux qui ont véritablement reconnu en Jésus, eh bien, non seulement en effet leur Sauveur, leur Seigneur, celui qui a fait l'expiation de tous les péchés, celui qui pardonne parfaitement. Parce que tu nous dis, en effet, eh bien, que tout cela, eh bien, c'est véritablement ta vérité, la vérité. Bénis mes frères et mes sœurs. Peut-être sommes-nous lassés, Seigneur, de lire la Bible, de revenir, en effet, Seigneur, constamment. Mais nous avons besoin, comme dans un jardin, eh bien, d'être améliorés, que notre cœur, la terre, qui est notre cœur, a besoin d'être, nous pourrions dire, eh bien, là, en effet, où l'on répand de l'engrais pour que ça pousse, que ça revienne, pour qu'il y ait véritablement une résurgence, en effet, de vie, d'allégresse, de paix, de joie et d'amour pour ta parole. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Amen.